Mais nous n'étions pas en train de parler de François, plutôt de l'hérésie comme produit des simples et des exclus. En effet, nous parlions des exclus du troupeau des brebis. Des siècles durant, tandis que le pape et l'empereur se déchiraient dans leur diatribe de puissants, ils ont continué à vivre en marge, eux les vrais lépreux, dont les lépreux ne sont que la figure placée là par Dieu, pour que nous comprenions cette admirable parabole, et disant « lépreux », nous comprenions « exclus, pauvres, simples, déshérités, déracinés des campagnes, humiliés dans les villes ». Nous n'avons pas compris le mystère de la lèpre est demeuré pour nous une obsession parce que nous n'en avons pas reconnu la nature de signe. Exclus qu'ils étaient du troupeau, ces derniers ont été prêts à écouter toute prédication qui, se référant à la parole de Christ, mettrait sous accusation le comportement des chiens et des pasteurs et promettrait qu'un jour ils seraient punis. Cela, les puissants l'ont toujours su. Reconnaître les exclus voulait dire réduire leurs privilèges, et donc les exclus qui se reconnaissaient comme exclus se voyaient taxés d'hérétiques, indépendamment de leur doctrine. Et eux, furieux de leur exclusion, n'étaient intéressés par aucune doctrine. L'illusion de l'hérésie, c'est ça. La foi qu'un mouvement offre ne compte pas, compte l'espérance qu'il propose. Gratte l'hérésie, tu trouveras le lépreux. Chaque bataille contre l'hérésie ne tend qu'à ça, que le lépreux reste lépreux. Quant aux lépreux, que veux-tu leur demander? Qu'ils distinguent entre eux définition de la Trinité ou de l'Eucharistie? Allons, Hatzo. Ce sont là jeux pour nous, hommes de doctrine. Les simples ont d'autres chats à fouetter, et remarquent que leurs problèmes, ils les résolvent tous d'une façon bancale. Ainsi deviennent-ils des hérétiques. Mais pourquoi certains les appuient-ils? Parce qu'ils servent leur jeu, qui rarement concerne la foi, et plus souvent la conquête du pouvoir. C'est pour cela que l'Église de Rome accuse d'hérésie tous ses adversaires? C'est pour cela, et c'est pour cela qu'elle reconnaît comme orthodoxie l'hérésie qu'elle peut remettre sous son propre contrôle, ou qu'elle doit accepter parce qu'elle est devenue trop forte. Mais il n'est point de règle précise, ce qui vaut aussi pour les rois ou les gens du commun. Jadis, à Crémone, les fidèles de l'Empire aidèrent les cathares, rien que pour mettre dans l'embarras l'Église de Rome. Parfois, les magistratures citadines encouragent les hérétiques pour la seule raison qu'ils traduisent l'Évangile en langue vulgaire. Le vulgaire est désormais la langue des villes, le latin la langue de Rome. Ou encore, ils appuient les Vaudois parce qu'ils affirment que tous, hommes et femmes, petits et grands, peuvent enseigner et prêcher. Ce faisant, ils éliminent la différence qui rend irremplaçable les clercs. Mais alors comment se fait-il donc que ces mêmes magistratures citadines se révoltent contre les hérétiques et prêtent main forte à l'Église pour les faire brûler? Parce qu'ils se rendent compte que les hérétiques mettent en crise jusqu'au privilège des laïcs qui parlent en vulgaire. Il y a 200 ans, lors d'un concile, on avait déjà dit qu'il ne fallait pas donner crédit à ces hommes idiots et illettrés qu'étaient les Vaudois. On avait dit, s'il m'en souvient bien, qu'ils n'ont pas de fixe demeure, circulent pieds nus sans rien posséder, mettent tout en commun, suivent nu le Christ nu. Mais si on leur laisse trop d'espace, ils chasseront tout le monde. Pour éviter ce fléau, les villes ont d'ailleurs favorisé les ordres mendiants, et nous franciscains en particulier, parce que nous permettions d'établir un rapport harmonieux entre besoins de pénitence et vie citadine, entre l'Église et les bourgeois qui s'intéressaient à leur marché. On a atteint l'harmonie, alors, entre l'amour de Dieu et l'amour des trafics? Non. Les mouvements de renouvellement spirituel se sont bloqués. Ils se sont canalisés dans les limites d'un ordre reconnu par le pape. Mais ce qui serpentait dans l'ombre n'a pas été canalisé. Cela a fini d'un côté dans les mouvements des flagellants, qui ne font de mal à personne, dans les bandes armées comme celles de Fradolcino, dans les rites de sorcellerie comme ceux des frères de Montfaucon dont parlait Hubertin. Mais qui avait raison? Qui a raison? À qui la faute? Tous avaient leur raison. Ils se sont tous trompés. « Mais vous !» criai-je presque dans un élan de rébellion. « Pourquoi ne prenez-vous pas position? Pourquoi ne me dites-vous pas où est la vérité ?» Guillaume resta un bon moment en silence, élevant vers la lumière le verre auquel il travaillait. Puis il l'abaissa sur la table et me montra, à travers la structure vitreuse, un fer de travail. « Regarde, me dit-il. Que vois-tu ? Le fer un peu plus grand. » Voilà, le maximum qu'on puisse faire, c'est regarder mieux. Mais c'est toujours le même fer. Le manuscrit de Venantius aussi sera toujours le même manuscrit quand j'aurai pu le lire grâce à ce vers. Mais sans doute, quand j'aurai lu le manuscrit, connaîtrai-je mieux une partie de la vérité, et peut-être pourrons-nous rendre meilleure la vie de l'abbaye. Mais cela ne suffit pas. Je t'en dis plus qu'il ne semble, Hatzo. Ce n'est pas la première fois que je te parle de Roger Bacon. Ce ne fut peut-être pas l'homme le plus sage de tous les temps, mais moi j'ai toujours été fasciné par l'espérance qui animait son amour pour la science. Bacon croyait à la force, aux besoins, aux inventions spirituelles des simples. Il n'eût pas été un bon franciscain s'il n'avait pas pensé que les pauvres, les déshérités, les idiots et les illettrés parlent souvent avec la bouche de notre Seigneur. S'il avait pu les connaître de près, il aurait été plus attentif aux fratricelles qu'aux provinciaux de l'ordre. Les simples ont quelque chose de plus que les docteurs, qui souvent se perdent à la recherche des lois les plus générales. Ils ont l'intuition de l'individuel, mais cette intuition toute seule ne suffit pas. Les simples éprouvent une vérité à eux, peut-être plus vraie que celle des pères de l'Église, mais ensuite ils la consument en gestes irréfléchis. Que faut-il faire? Donner la science aux simples? Trop facile ou trop difficile? Et puis quelle science? Celle de la bibliothèque d'Abbon? Les maîtres franciscains se sont posé ce problème. Le grand Bonaventure disait que les sages doivent amener à une clarté conceptuelle la vérité implicite dans les gestes des simples. Comme le chapitre de Pérouse et les doctes mémoires d'Hubertin qui transforment en décision théologique l'appel des simples à la pauvreté, dis-je. Oui, mais tu l'as vu, cette transformation a lieu en retard, et quand elle a lieu, la vérité des simples s'est déjà transformée en la vérité des puissants, bonne davantage pour l'empereur Louis que pour un frère de pauvre vie. Comment rester proche de l'expérience des simples en en gardant, pour ainsi dire, la vertu opérative, la capacité d'opérer pour la transformation et l'amélioration de leur monde? C'était le problème de Bacon. Quod enim laicali ruditate turgescit non habet effectum nisi fortuito. L'expérience des simples a des issues sauvages et incontrôlables. Sed opera sapientiae carta lege valentur et infinem debitum efficaciter diriguntur. Il pensait que la nouvelle science de la nature devait être la nouvelle grande entreprise des doctes pour coordonner, à travers une connaissance différente des processus naturels, les besoins élémentaires qui constituaient aussi l'accumulation des ordonnées, mais, à sa façon réelle et juste, des espoirs des simples. La nouvelle science, la nouvelle magie naturelle. À part que pour Bacon, cette entreprise devait être dirigée par l'Église, et je crois que tels étaient ses vœux, parce qu'à son époque, être clair et être savant, c'était pareil. Aujourd'hui, il n'en va plus ainsi. Il naît des savants en dehors des monastères et des cathédrales, et même des universités. Dans ce pays, le plus grand philosophe de notre siècle n'a pas été un moine, mais un apothicaire. Je veux parler de ce Florentin dont tu auras entendu nommer le poème, que pour ma part, je n'ai jamais lu, parce que je ne comprends pas son vulgaire. Et d'après ce que j'en sais, je ne l'aimerais pas beaucoup, car il y extravague sur des affaires fort éloignées de notre expérience. Mais il a écrit, je crois, les choses les plus sages qui nous soient données de comprendre sur la nature des éléments et du cosmos tout entier et sur la direction des États. Comme lui, mes amis et moi-même jugeons que pour la conduite des affaires humaines, il ne revient pas à l'Église mais à l'Assemblée du peuple de légiférer. De même, dans le futur, il reviendra à la communauté des doctes de proposer cette toute nouvelle et humaine théologie qui est philosophie naturelle et magie positive. Un bel exploit, dis-je. Mais est-ce possible? Bacon y croyait. Et vous? Moi aussi, j'y croyais. Mais pour y croire, il faudra être sûr que les simples ont raison, parce qu'ils possèdent l'intuition de l'individuel, l'unique qui vaille. Cependant, si l'intuition de l'individuel est l'unique qui vaille, comment la science pourra-t-elle arriver à recomposer les lois universelles à travers lesquelles et par l'interprétation desquelles la bonne magie devient opérante? Eh oui, dis-je, comment le pourra-t-elle? Je ne le sais plus. J'ai eu tant de discussions à Oxford avec mon ami Guillaume d'Ockham, qui est maintenant en Avignon. Il a semé de doutes mon esprit. Car si la seule intuition de l'individuel est juste, le fait que des causes du même genre et des effets du même genre est une proposition difficile à soutenir. Un même corps peut être froid ou chaud, doux ou amer, humide ou sec, dans un lieu et pas dans un autre. Comment puis-je découvrir le lien universel qui met de l'ordre dans les choses, si je ne puis bouger le petit doigt sans créer une infinité de nouveaux états, puisqu'avec un tel mouvement, toutes les relations de position entre mon doigt et tous les autres objets changent. Les relations sont les manières dont mon esprit perçoit le rapport entre états singuliers. Mais quelle garantie peut-on avoir que cette manière est universelle et stable? Vous savez pourtant qu'à une certaine épaisseur de verre correspond une certaine puissance de vision, et c'est parce que vous le savez que vous pouvez fabriquer à présent des verres pareils à ceux que vous avez perdus, sinon, comment le pourriez-vous? Réponse pénétrante, Atsuo. J'ai en effet élaboré cette proposition qu'à épaisseur égale doit correspondre une égale puissance de vision. Je l'ai émise parce que d'autres fois j'ai eu des intuitions individuelles du même type. Il est certes connu à qui expérimente la propriété curative des herbes que tous les individus herbacés de la même nature ont chez le patient, pareillement disposé, des effets de même nature. Et donc, l'expérimentateur formule la proposition que chaque herbe de tel type est bonne pour le fébricitant ou que chaque ver de tel type magnifie pareillement la vision de l'œil. La science dont parlait Bacon roule indubitablement sur ces propositions. Attention, je parle de propositions sur les choses, non pas de choses. La science a affaire avec les propositions et ses termes, et les termes désignent des choses singulières. Tu comprends, Atsuo, je dois croire que ma proposition fonctionne, parce que je l'ai apprise en me fondant sur l'expérience. Mais pour le croire, je devrais supposer qu'il existe des lois universelles, et pourtant je ne peux en parler. Car le concept même qu'il existe des lois universelles et un ordre donné des choses impliquerait que Dieu en fût prisonnier, tandis que Dieu est chose si absolument libre que s'il le voulait et d'un seul acte de sa volonté, le monde serait autrement. Or donc, si je comprends bien, vous faites et vous savez pourquoi vous faites, mais vous ne savez pas pourquoi vous savez que vous savez ce que vous faites. Je dois dire, non sans orgueil, que Guillaume me regarda avec admiration. Il en va sans doute ainsi. De toute façon, cela te dit pourquoi je me sens aussi peu sûr de ma vérité, même si j'y crois. « Vous êtes plus mystique qu'Hubertin ? » dis-je malicieusement. « Peut-être. Mais comme tu vois, je travaille sur les choses de nature. Et même dans l'enquête que nous menons, je ne veux pas savoir qui est bon et qui est méchant, mais qui a été dans le scriptorium hier soir, qui a dérobé mes lunettes, qui a laissé sur la neige les empreintes d'un corps qui traîne un autre corps et où se trouve Béranger. Ce sont là des faits. Ensuite, j'essaierai de les rattacher les uns aux autres, dans la mesure du possible, car il est malaisé de dire quel effet est donné par quelle cause. Il suffirait de l'intervention d'un ange pour tout changer. Alors il ne faut pas s'étonner si on ne peut démontrer qu'une chose est la cause d'une autre chose. Même s'il faut toujours tenter, comme je suis en train de le faire. « C'est une vie difficile que la vôtre, » dis-je. « Mais j'ai trouvé Brunel !» s'exclama Guillaume en faisant allusion à ses déductions sur le cheval de l'avant-veille. « Alors il y a un ordre du monde !» criai-je triomphant. « Alors il y a un peu d'ordre dans ma pauvre tête, » répondit Guillaume. À cet instant, revint Nicolas, portant une fourche presque terminée et nous la montrant comme un trophée. « Et quand il y aura cette fourche sur mon pauvre nez, » dit Guillaume, « peut-être que ma tête sera encore plus ordonnée. » Un novice arriva pour nous informer que l'abbé voulait voir Guillaume et l'attendait dans le jardin. Mon maître fut contraint de remettre ses expériences à plus tard et nous nous hâtâmes vers le lieu du rendez-vous. Chemin faisant, Guillaume se flanqua une tape au front comme s'il ne se souvenait qu'à l'instant de quelque chose qu'il avait complètement oublié. « À propos !» dit-il, « j'ai déchiffré les signes cabalistiques de Venantius. »« Tous ? Quand ? Quand tu dormais. Et cela dépend de ce que tu entends par tous. J'ai déchiffré les signes apparus à la flamme, ceux que tu as recopiés. Les notes en grec doivent attendre que j'aie de nouveaux vers. » « Alors ? Il s'agissait du secret du Finis Africae ? » « Oui, et la clé était assez facile. Venantius disposait des 12 signes zodiacaux et de 8 signes pour les 5 planètes, les 2 luminaires et la Terre. 20 signes en tout. Suffisamment pour y associer les lettres de l'alphabet latin, vu que tu peux utiliser la même lettre pour exprimer le son des 2 initiales de Unum et de Velut. L'ordre des lettres, nous le savons. Quel pouvait être l'ordre des signes? J'ai pensé à l'ordre des ciels, en plaçant le cadran zodiacal à l'extrême périphérie. Donc, Terre, Lune, Mercure, Vénus, Soleil, etc. Et puis à la file, les signes zodiacaux dans leur suite traditionnelle, tels que les classifie aussi Isidore de Séville, à commencer par le Bélier et par le solstice de printemps, pour finir avec les Poissons. Maintenant, si tu essaies d'appliquer cette clé, voilà que le message de Venantius acquiert un sens. Il me montra le parchemin sur lequel il avait transcrit le message en grandes lettres latines. « Secretum finis Africae, manus supra idolum, age primum et septimum dequator. » « C'est clair ? » demanda-t-il. « La main sur l'idole opère sur le premier et sur le septième des quatre, » répétai-je en branlant du chef. « C'est loin d'être clair. » « Je le sais. » Il faudrait avant tout savoir ce que Venantius entendait par « idolum ». Une image, un fantôme, une figure. Et puis, que peuvent bien être ces quatre qui ont un premier et un septième? Et que faut-il en faire? Les bouger, les pousser, les tirer? Alors nous ne savons rien et nous en sommes au point de départ, dis-je tout désappointé. Guillaume s'arrêta et me regarda d'un air fort peu bienveillant. « Mon garçon, dit-il, tu as devant toi un pauvre franciscain qui, avec ses modestes connaissances et ce tantinet d'habileté qu'il doit à l'infinie puissance du Seigneur, a réussi en quelques heures à déchiffrer une écriture secrète dont son auteur était certain qu'elle apparaîtrait hermétique à tout le monde, lui excepté. Et toi, misérable fripouille illettré, tu te permets de dire que nous en sommes au point de départ ? » Je m'excusai avec beaucoup de gaucherie. J'avais blessé la vanité de mon maître, tout en sachant fort bien comme il était fier de la rapidité et de la sûreté de ses déductions. Guillaume avait vraiment accompli une tâche digne d'admiration, et il n'en allait pas de sa faute si le très astucieux Venantius avait non seulement caché sa découverte sous les dehors d'un obscur alphabet zodiacal, mais aussi élaboré une indéchiffrable énigme. « Peu importe, ne t'excuse pas, » m'interrompit Guillaume. « Au fond, tu as raison. » Nous en savons encore trop peu. Allons.